Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour et bienvenue à cette édition du programme en français de ce jeudi 25 mars. Bertrand Tonganamé pour vous accompagner. Dans cette édition, on vous parlera de l'économie australienne. On parlera également du sort des Japonais de Nouvelle-Calédonie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais avant cela, l'actualité de ce jeudi. Les vols internationaux vers Melbourne reprendront à partir du 8 avril. Une allégation d'agression sexuelle contre un parlementaire de la Nouvelle-Galles du Sud. Et en France, trois départements supplémentaires sur la liste des zones soumises à des restrictions sanitaires strictes. Le gouvernement du Victoria a annoncé la reprise des vols internationaux vers Melbourne à partir du 8 avril prochain. Les vols internationaux avaient été suspendus depuis le mois de février lorsqu'un employé assurant la quarantaine dans un hôtel avait contracté la variante anglaise de COVID-19, une variante qu'il a contractée d'un voyageur de retour de l'étranger. Et on se souvient que cet incident avait déclenché un confinement instantané qui aura duré 5 jours. Le gouvernement du Victoria maintient qu'il a procédé à des examens majeurs du système de quarantaine dans les hôtels et le flux d'air hors des chambres a été identifié comme la source de la fuite du virus. Le premier par intérim, James Merlino, a déclaré que le Victoria accepterait initialement jusqu'à 800 passagers par semaine avant de passer à 1120 personnes une fois que toutes les évaluations de la ventilation dans les hôtels seront terminées.
I have written to the Prime Minister advising him of Victoria's capacity in terms of returning flights and our hotel quarantine system, advocating for a nationally consistent approach to ventilation. So Victoria's the only jurisdiction that has done this additional work in terms of ventilation, so we want to share that.
Il faut rappeler que plus de 36 000 Australiens restent bloqués à l'étranger. La première de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, s'est dit choquée par une allégation selon laquelle le député Michael Johnson du parti des nationalistes aurait agressé une travailleuse du sexe dans les Blue Mountains. Monsieur Johnson a démissionné de son rôle de secrétaire parlementaire après s'être identifié comme la personne au centre de l'allégation soulevée sous le privilège parlementaire par la députée travailliste Trish Doyle. Dans ce communiqué, M. Johnson précise qu'il s'est volontairement entretenu avec la police de Nouvelle-Galles du Sud et qu'il est certain que toute enquête va prouver son innocence. Mme Berejiklian dit qu'elle n'était pas au courant de cette allégation avant qu'elle n'ait été soulevée au Parlement.
I joined everybody else in being absolutely shocked at the serious allegations that were raised. And somewhat relieved that it's subject to a police investigation. I think all of us want to make sure that justice is served well and properly, and the alleged victim needs to be able to have a process where nothing is prejudiced. So I'm going to be really careful in what I say because all of us want to get to the bottom of this and want it to be done properly.
Et au niveau fédéral, le procureur général Christian Porter et la ministre de la Défense Linda Reynolds seraient sur le point de perdre leur portefeuille lors du deuxième remaniement ministériel du gouvernement fédéral dans 3 mois. Le premier ministre Scott Morrison a été confronté à de nombreuses questions sur l'avenir des deux ministres à leur retour du congé de maladie. Selon certaines informations, M. Porter perdra son portefeuille au profit de Michaela Cash, tandis que les responsabilités du sénateur Reynolds devraient être confiées à Peter Dutton. Le remaniement pourrait être annoncé dès demain vendredi 26 mars. Et le premier de Tasmanie, Peter Godwin, a écrit au Premier ministre l'exhortant à examiner des allégations formulées contre le sénateur libéral Eric Abetz. Cet appel intervient après que Soeki, une députée de Tasmanie, a utilisé le privilège parlementaire pour accuser le sénateur Abetz d'avoir vilipendé Brittany Higgins, cet employé parlementaire qui s'est plainte d'avoir été agressé sexuellement dans l'enceinte du Parlement. Selon la députée Sue Hickey, Eric Abetz aurait minimisé les accusations de Brittany Higgins dans une conversation en marge d'une cérémonie de citoyenneté à Hobart. Monsieur Cotwin a demandé à Scott Morrison d'examiner la question tout en sachant que le sénateur Abetz nie avoir fait ces commentaires dont on l'accuse. Le premier des Tasmanie indique que Mme Hickey lui a dévoilé les propos injurieux du sénateur Abetz il y a plusieurs semaines de cela, mais seulement dans les grosses lignes. Mme Hickey aurait révélé plus de détails lors d'une intervention au Parlement. Les autorités de Nouvelle-Galles du Sud préviennent que malgré la baisse des pluies, des inondations sont toujours attendues dans une grande partie de l'État. Le SIS, le service d'urgence de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, a émis un avis rassurant pour les centres-villes de Kempsey, Tarry Estate, North Haven et Laurieton. Il a indiqué que les résidents pouvaient y retourner en toute sécurité. Mais la situation dans d'autres parties de l'État reste préoccupante. Les autorités préviennent en effet de grosses inondations le long des fleuves et des rivières McIntyre, Guaidir, Clarence et Hawkesbury, ainsi que la Nepean et Colo. Sur les antennes de Sky News, le commissaire adjoint des SIS, Sean Keynes, a invité les riverains des zones touchées par les inondations de ne pas être complaisants.
We are still fighting that people are still trying to drive through floodwaters, or they haven't heard, they haven't listened to the evacuation orders or warnings and left, and then suddenly found that their property has been inundated with water. So we are asking to people to listen to those warnings.
On signale qu'un ressortissant pakistanais de 25 ans est décédé hier après que sa voiture a été piégée par les eaux de crue dans l'ouest de Sydney. Et pendant ce temps, le corps de David Orman, cet homme de 38 ans, qui avait disparu, a été retrouvé dans sa voiture qui a été submergée dans un ruisseau inondé dans l'arrière-pays de la Gold Coast. Et le service juridique aborigène signale que 4 aborigènes ont trouvé la mort ces 3 dernières semaines alors qu'ils se trouvaient en détention. Un homme de 37 ans du peuple Barkindji, Anzac Sullivan, est mort lors d'une poursuite policière à Broken Hill la semaine dernière. Ce décès est survenu peu de temps après la mort des 2 aborigènes dans des prisons de la Nouvelle-Galles du Sud et un autre décédé au Victoria. Selon le service juridique aborigène, il est urgent de rendre des comptes sur ces décès. Et le gouvernement fédéral a dit avoir débloqué 135 millions de dollars supplémentaires pour aider l'industrie des arts et du divertissement, donc l'aider à se remettre de la pandémie de coronavirus. La plupart des fonds viennent s'ajouter à un fonds de relance déjà en place pour soutenir les entreprises artistiques et les sociétés de production. La nouvelle enveloppe porte le budget de soutien aux artistes à 200 millions de dollars. Le ministre fédéral des Arts, Paul Fletcher, a déclaré que le programme de subvention vise à aider les gens à rester au travail.
This is about jobs. We're getting performers and creatives back on stage. We're getting the backstage crew back to work and front of house as well. The ushers, the people in the ticket office.
On signale qu'une enveloppe supplémentaire de 10 millions de dollars sera aussi débloquée pour apporter une aide financière aux artistes et différents groupes en difficulté dans le cadre d'une loi votée au Parlement. Et moins d'une semaine après de nouvelles restrictions sanitaires dans 16 départements en France, le gouvernement a décidé de les appliquer à 3 autres départements. Il s'agit du Rhône, de l'Aube et de la Nièvre. Les nouvelles mesures incluent l'interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes à l'extérieur. Entre-temps, confrontés à un nombre croissant de malades de Covid, des patients non-Covid sont déprogrammés par les hôpitaux. Pour Christophe Prudhomme, porte-parole des médecins urgentistes de France, cette situation est liée au manque d'anticipation de la troisième vague.
Alors oui, les hôpitaux sont sous tension, mais cette tension était prévisible et rien n'a été fait pour se préparer. Nous n'avons créé aucun lit de réanimation supplémentaire en France depuis un an. C'est le plus grand scandale de notre pays, soi-disant la 5e ou la 6e puissance mondiale. C'est quand même catastrophique.
C'était Christophe Prudhomme, porte-parole des médecins urgentistes de France, au micro de RFI. Facebook affirme avoir bloqué un groupe de pirates informatiques en Chine qui utilisait la plateforme pour cibler des centaines d'Ouïghours vivant à l'étranger. Les pirates ciblaient leurs victimes avec des logiciels malveillants qui infectaient leurs appareils et permettaient la surveillance. Le géant des réseaux sociaux a déclaré que les pirates informatiques avaient concentré leurs opérations sur des militants, des journalistes et des dissidents qui appartenaient principalement appartenant principalement aux groupes ethniques musulmans. Facebook affirme que les cibles provenaient en grande partie de la région du Xinjiang en Chine, mais vivaient principalement à l'étranger dans des pays tels que la Turquie, le Kazakhstan, les États-Unis, la Syrie, l'Australie et le Canada. La majeure partie des activités de piratage se serait produite ailleurs que sur Facebook, mais les piratages se servait de la plateforme pour partager des liens vers des sites web malveillants. La route maritime la plus courte entre l'Europe et l'Asie reste bloquée alors que 10 remorqueurs luttent pour libérer l'un des plus grands porte-conteneurs du monde bloqué dans le canal de Suez en Égypte. L'Eva Given de 400 mètres s'est échouée dans le canal après avoir perdu la capacité de naviguer en pleine période de vents violents et d'une tempête de poussière. Un responsable égyptien a déclaré que l'opération de renflouement du porte-conteneur pourrait durer au moins 2 jours, ce qui créera un effet d'entraînement majeur pour le transport maritime mondial. Il faut rappeler qu'environ 30% des conteneurs maritimes transitent par le canal de Suez chaque jour, transportant tout, du carburant aux biens de consommation. Retour en Australie où plusieurs musiciens australiens internationaux ont rendu hommage hier à Michael Gudinski, figure emblématique de la musique australienne, dans une cérémonie funèbre consacrée par l'État de Victoria. Plus de 7000 personnes ont rempli la Rod Laver Arena en souvenir de Gudinski, qui, on le rappelle, était cofondateur de Mushroom Records et il est décédé plus tôt ce mois à l'âge de 68 ans. Kylie Minogue, Paul Kelly et Ed Sheeran étaient parmi les personnes présentes. Et dans cette cérémonie, des artistes et différentes personnalités ont exprimé leur admiration et leur amour pour l'homme, autrement connu comme le parrain de la musique australienne. Jimmy Barnes dit qu'il ne serait pas là où il est sans Gudinski.
Michael Gudinski was my mate. He was my brother. He was my partner in crime. We laughed, we fought, we cried together. We did everything together. I've been making music with Michael since 1983. It's nearly 40 years that we've been working together. I've known him for nearly 50. And before that, I looked up to him.
Et un coup d'œil météo à travers l'Australie, Perth 26 degrés, Adelaide 21, Melbourne 20, Hobart 21, Canberra 21, Wollongong 25 degrés, Sydney 28, Newcastle 27, Brisbane 31, Cairns 32 et Darwin 31 degrés. Et un rappel des titres, les vols internationaux vers Melbourne reprendront à partir du 8 avril. Et une allégation d'agression sexuelle contre un parlementaire de la Nouvelle-Galles du Sud. Et en France, 3 départements supplémentaires sur la liste des zones soumises à des restrictions sanitaires strictes. C'est tout pour l'actualité. Après la pause, le magazine des sports avec Christophe Mallet.
Programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Journal des sports pour aujourd'hui. On débute avec du football et c'est cette semaine que débutent en Europe notamment les éliminatoires pour le Mondial de football 2022 au Qatar. L'attribution de cet événement planétaire, c'était il y a 10 ans déjà, et bien continue à poser des questions sur des soupçons de corruption, sur l'opportunité de construire des stades climatisés en plein désert, sur le statut des ouvriers qui y ont travaillé, certains y sont morts, sur le traitement des femmes arbitres également. Cela fait beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire que cela fait tout simplement trop et pour évoquer un boycott. Le Mondial du Qatar 2022 doit-il être boycotté? C'est la question du jour. Élément de réponse avec Sabine Gagné, chargée de plaidoyer à Amnesty International.
On sait que d'autres organisations ont fait un choix différent et on le respecte tout à fait. Nous, notre rôle en tant qu'organisation de défense des droits humains, c'est de documenter ces violations de droits humains et d'appeler le plus possible à chacun au respect de ses obligations. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle chacun des acteurs, la FIFA, le Qatar, à s'engager vraiment pour la défense des droits humains. On est à plus d'un an et demi de la Coupe du Monde. On verra comment les choses se passent au fur et à mesure où on avance vers le tournoi. Mais pour l'instant, on pense que les choses sont encore améliorables.
Sabine Gagné, donc d'Amnesty International. Allez, on va parler maintenant d'une histoire incroyable, celle de Béatrice de Lavalette. Car parfois, le sport, c'est bien au-delà des résultats, c'est également un élément humain. Et cette semaine marquait l'anniversaire, les 5 ans de l'attentat de Bruxelles. Et on va parler de Béatrice de Lavalette. C'est une cavalière professionnelle. Elle a été blessée dans ces attentats avec un rêve olympique qui se transforme en rêve paralympique. Elle a été amputée au-dessous du genou après avoir donc été grièvement blessée dans l'explosion d'une bombe à l'aéroport de Bruxelles. Cette cavalière de haut niveau entend bien donc se qualifier pour les Jeux paralympiques de Tokyo cet été. Elle va bénéficier d'un exosquelette fait sur mesure pour elle.
La présentation que j'ai faite aujourd'hui était vraiment top. Le cheval était beaucoup mieux que les deux derniers jours. Et moi, je me sentais vraiment prête pour aujourd'hui.
On sait qu'en dressage, on monte le cheval entre ses jambes et sa main, au travers de l'assiette. Donc quand on n'a pas ses jambes, c'est un handicap assez considérable. Et il faut toujours trouver un autre moyen. On arrive toujours à trouver un moyen de communiquer avec son cheval, ce qu'elle fait très bien.
Hop, 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 hop.
She loves it in here. Bea knows how to work hard, but things add up, especially with some of the stuff she deals with. It adds up. So her day could be a lot longer than one of our days. If she does a little bit too much, she feels it a little more.
Pour garder en autonomie la majorité du temps, parce que ça aide beaucoup avec les chevaux. Mais pour moi, juste de me mettre dans la voiture moi-même, de démonter ma chaise, j'ai besoin d'être en forme physique. Donc, c'est très important.
Psychologiquement et moralement, je suis toujours en train de travailler dessus. C'est quelque chose que je travaille dessus tous les jours. C'est quelque chose que j'ai envie de passer pour avoir une vie heureuse, sans avoir de soucis, d'avoir peur d'être quelque part dans... où quelque chose pourrait arriver. Ça va me permettre de pouvoir marcher, de pouvoir marcher, m'asseoir, me lever. Ça va beaucoup m'aider dans la vie où je vais pouvoir, par exemple, mettre de l'essence dans ma voiture, où d'habitude je dois appeler quelqu'un. Ça, j'ai très hâte. Ça va me donner une liberté dans la vie que j'ai perdue depuis les attentats.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
C'était les matins difficiles avec Gaëtan Roussel. Maintenant, comme tous les jeudis, on va prendre la température de l'économie australienne avec Nicolas Perpich au micro de Christophe Mallet.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement.
sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Allez, comme chaque jeudi, on va décrypter l'actualité économique en Australie avec Nicolas Purpitch. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors, on va parler de population déjà pour débuter ce segment. Et la population en Australie qui baisse pour la première fois depuis 100 ans. Et ça, c'est pas un bon signe pour l'économie.
Non, tout à fait. Parce que la population, l'immigration, etc., c'est lié de très près à l'économie et à la croissance économique. Alors là, on voit que la première fois depuis décembre 1916, depuis la Première Guerre mondiale, en fait, la population de l'Australie est baissée. Et donc, c'était entre juillet et septembre de l'année dernière qu'on a vu que la population est tombée par 4200 personnes en tout, en gros. Donc, ça fait 0,2%. Ce qui est assez étonnant, et c'est complètement lié à la pandémie qui Covid-19, avec les frontières qui sont fermées, avec l'immigration qui a arrêté complètement, parce que d'habitude, l'Australie dépend de l'immigration pour 2/3 de sa croissance économique, et là, c'est réduit pratiquement à zéro. D'habitude, la croissance de la population est à peu près 1,5%, donc ça monte légèrement, mais là, en même temps, il y a un autre problème, c'est que le taux de natalité ici en Australie a baissé ou est baissé assez sérieusement pendant Covid-19. Et ça, c'est expliqué parce que selon les économistes et même les analystes de la santé économique, ils disent que bon, quand les couples ont tous les deux des jobs, quand ils sont positifs et confiants à propos de l'avenir, c'est plus probable qu'ils vont avoir des enfants, mais quand quelqu'un perd leur travail, post-travail, et l'avenir se présente mal, ben ils sont moins, il y a moins de possibilités d'avoir des enfants parce que il y a un poids économique. Alors là, on voit justement le taux de natalité qui tombe en même temps que la population ici en Australie tombe. Donc on a eu 26 années de croissance économique avant Covid-19 et en même temps, on avait l'immigration permanente pendant cette période. C'était pas une coïncidence. Et quand la population tombe, quand il y a moins d'immigration dans un pays comme l'Australie, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire, par exemple, tout simplement qu'il y a moins de travailleurs immigrants ou de backpackers pour travailler dans les fermes, mais aussi pour des grands projets où on a besoin d'ingénieurs, par exemple. Eh ben, 65% de nos ingénieurs ici en Australie viennent de l'étranger. Donc, quand il y a des grands projets d'infrastructure, on dépend de ces ingénieurs. Donc, ça va être plus difficile pour les faire démarrer, sauf s'ils trouvent une façon d'entrer en Australie. Bon, tout ça, ça devrait passer. La population ne va pas continuer à baisser. Ça va commencer à remonter. On espère avec le vaccin aussi, et que on espère que ça va être juste un blip et que ça va être au moins 100 ans avant qu'on voit quelque chose pareil encore.
Ouais. Et puis vous savez que vous et moi, hein, dans quelques mois, on parlera sûrement d'un baby boom, un nouveau baby boom, comme on a pu l'avoir au 20e siècle.
On espère, ouais.
Allez, on va parler maintenant du marché locatif. Et pour aider les locataires pendant la pandémie, hein, il y a eu plusieurs gouvernements qui avaient interdit donc aux propriétaires fonciers d'augmenter leur loyer. Mais ça va finir. Est-ce que ça peut avoir un effet grave sur le marché justement locatif?
Ben oui, tout à fait. Ben, là, on a vu pendant la pandémie qu'en mars à peu près, il y avait des gouvernements qui ont annoncé un moratorium sur les loyers. Donc les propriétaires n'avaient pas le droit d'augmenter les loyers les locataires étaient en difficulté c'était très difficile de virer les gens aussi. Donc ça a duré à peu près une année. Et là, on voit que maintenant, ça commence à finir dans certains États, comme en Australie-Occidentale, par exemple. Et là, il y a des locataires qui ont dit, bon, le loyer va monter tout d'un coup. Donc il y a une femme, elle, on lui a annoncé que son loyer va monter par 90$ chaque semaine. Donc ça, c'est assez important, c'est beaucoup. Elle a dit qu'elle peut pas, c'est beaucoup trop, elle peut pas, elle peut pas payer ça, mais en même temps elle sait que c'est difficile d'abandonner et d'essayer de trouver un autre appartement, une autre maison, parce que il y en a presque pas à louer. Il y a pas beaucoup de stock, il y a pas beaucoup d'appartements ou de maisons disponibles. Il y a ce qu'on appelle un vacancy rate de seulement 1%. À Perth, c'est un peu la même chose dans d'autres villes. C'est encore pire dans les régions, dans les petites villes régionales. Il y a encore moins de stock d'appartements et de maisons à louer. Donc, il y a vraiment une alerte qui a été sonnée pour dire que si les propriétaires font monter les loyers beaucoup trop, il y a un risque que les gens vont se retrouver à la rue. Donc ça, ça deviendrait non seulement un problème financier et économique, mais un problème social aussi. Alors il y a des groupes comme Shelter Australia, Anglicare et d'autres groupes comme ça qui disent que les gouvernements ont besoin d'annoncer des limites pour faire monter le loyer. Donc ça serait quelque chose qui serait une loi, par exemple, qui interdiserait des hausses de loyers de plus qu'un certain pourcentage, par exemple. Et en même temps, demande au gouvernement d'acheter plus de logements sociaux pour placer les gens, tout simplement. Parce que, bon, ils savent que si les gens se retrouvent à la rue ou dans grande difficulté, s'ils sont obligés de rester avec de la famille ou rester dans des caravan parks, par exemple, ça va être plus difficile pour les gens de travailler, donc il y aura tout, ça va continuer, et il y aura des effets secondaires économiques et sociaux aussi.
Ouais, tout à fait. C'est l'un des effets probablement attendus d'ailleurs pour l'après-pandémie, le retour à au nouveau normal. C'est vrai qu'il va falloir se rajuster et c'est des choses qui risquent d'être impactées pas mal de monde. Merci Nicolas d'avoir décrypté l'actualité économique pour nous cette semaine.
Merci beaucoup. À plus tard, Christophe.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
C'était un monde nouveau, feu Chatterton. Sur les antennes de la radio SBS. Maintenant, on va passer à une pause et après la pause, on va parler du sort, du destin des Japonais de Nouvelle-Calédonie. Et bien, au lendemain de l'attaque sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941, les autorités à Nouméa ont fait arrêter tous les Japonais avant de les envoyer dans des camps de prisonniers en Australie. Cette histoire nous a été préparé par Grégory Pless. Il a rencontré ces Japonais, les a interviewés et nous allons écouter cet entretien juste après la pause.
Radio SBS en français, en ligne et sur votre smartphone.
C'est un épisode peu connu de l'histoire de France. Il se déroule au lendemain de l'attaque japonaise sur la base de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941. Cet assaut qui force les États-Unis à prendre part à la Seconde Guerre mondiale pousse aussi ses alliés à prendre des décisions radicales. C'est notamment le cas en Nouvelle-Calédonie qui en 1941 est du côté de la résistance et de la France libre. Sur place, la vie d'environ un millier d'immigrés japonais va changer du jour au lendemain. C'est l'historien calédonien Ismet Kustovich qui nous raconte cet épisode.
Le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie ordonne l'arrestation de tous les nationaux japonais. Donc, ils sont arrêtés vraiment dans des conditions extrêmement humiliantes et injustes, sans avoir le temps, sans égard pour leur famille, de prendre leurs affaires. Et ils sont regroupés dans certains centres de l'intérieur, nous disons la brousse, puis conduits à Nouméa, ou plusieurs camps de concentration, on appelait ça comme ça à l'époque, naturellement ça n'avait rien à voir avec les camps de concentration nazis, donc ils étaient concentrés en fait dans des camps spéciaux au centre-ville et à Nouville qui était une île en face de Nouméa dans une ancienne église désaffectée qui était plutôt un entrepôt et là la plupart des Japonais étaient gardés sous surveillance, en prison.
Mais leur détention à Nouméa est de courte durée. Quelques mois plus tard, ils sont envoyés dans des camps en Australie. Cette partie-là, c'est Marie-Josée Michel, l'ancienne consule honoraire du Japon à Nouméa, qui nous en parle.
Alors, il y avait deux types de camps. Le premier, c'était le camp de Lovedale, dans l'Australie du Sud. Et celle-là recevait tous les célibataires, c'est-à-dire pour la plupart des pères d'enfants japonais de Nouvelle-Calédonie. Et il y avait un autre camp dans le Victoria, c'était le camp de Tatoa. Et à Tatoa, près de Melbourne, c'était le camp des familles composées, hommes, femmes, japonais et leurs enfants. Ces gens faisaient partie d'une deuxième immigration en Nouvelle-Calédonie, celle qui est arrivée après les années 1930.
Les premiers Japonais arrivent eux en Nouvelle-Calédonie à la fin du 19e siècle. Il s'agit dans la très grande majorité des cas d'hommes célibataires venus pour travailler dans des mines de nickel. Mais 50 ans plus tard, beaucoup d'entre eux ont choisi de poursuivre une autre carrière. En 1940, les Japonais sont présents dans toutes les couches de la société à Nouméa.
Tout l'intérieur de Nouméa, tout le centre-ville de Nouméa était japonais. On avait des commerçants, beaucoup de tailleurs, des coiffeurs, des fabricants de nouilles, de tofu, voilà.
Mais ces Japonais ne sont pas tous commerçants. Certains ont investi beaucoup d'argent dans l'agriculture, mais aussi et surtout dans ces fameuses mines de nickel. Sauf qu'au moment de leur arrestation, les autorités décident également de confisquer tous leurs biens. On écoute Philippe Palombo, il a écrit une thèse sur le sujet.
La plupart des biens vont être mis en vente, et là-dedans, c'est l'État français et quelques mineurs néo-calédoniens qui vont être les grands bénéficiaires de ces ventes aux enchères. Ça veut dire quoi? C'est que, à part exception, des familles de Japonais, en particulier les femmes et les enfants qui sont restés, qui étaient français, eh bien, ont été expulsés, soit vont devoir racheter leurs propres biens. Voilà ce que ça veut dire.
Sans un sou et prisonniers dans un pays qui leur est inconnu, ces Japonais passent donc les 4 années suivantes dans des camps en Australie. Puis à la fin de la guerre, ils sont renvoyés au Japon. L'Australie, à ce moment-là, ne veut pas les garder et la France ne veut pas les voir revenir. Même si parmi ces hommes, certains souhaitent plus que tout retourner en Nouvelle-Calédonie.
Plusieurs Japonais demandent à revenir en Nouvelle-Calédonie. Ils disent que leurs biens et leurs familles sont en Nouvelle-Calédonie, comme on dit, leurs intérêts matériels et moraux. Et une pétition circule et les Australiens contactent les autorités calédoniennes. Ouais, en leur disant, ben voilà, les Japonais veulent retourner chez eux. Et les autorités calédoniennes, que le gouverneur ne manque pas de consulter, refusent absolument. C'est là une grave injustice, une nouvelle grave injustice qui a été faite, et notamment vis-à-vis naturellement des épouses ou des concubines. Et donc, finalement, ils n'ont pas été défendus, hein, parce que leurs épouses étaient dispersées, les enfants, ils étaient plutôt petits, n'avaient pas voix au chapitre, adolescents ou jeunes adultes. Donc, tout ça mis ensemble fait que voilà, ils n'ont pas pu rentrer.
Pour ces quelques 200 Japonais qui avaient commencé une nouvelle vie en Nouvelle-Calédonie, c'est bien sûr un déchirement.
Certaines étaient en Nouvelle-Calédonie depuis 30-35 ans, hein, avaient fondé une famille, tout. Le Japon était pour eux, n'était plus... En somme, faisait plus partie de leur projet de vie. Hein, c'était leur pays, leur culture, bien sûr, mais c'était plus leur projet de vie. Leur vie, c'était en Nouvelle-Calédonie, avec leur famille.
Leurs enfants aussi ont souffert de cette épreuve. C'est ce que nous explique Dominique Yanaï. Son arrière-grand-père a été arrêté en 1941, puis envoyé dans un camp en Australie. Mais ce Calédonien, qui vit désormais à Brisbane depuis 10 ans, ne l'a appris que tout récemment, en menant ses propres recherches. Car parler de cet aïeul, dans la famille, c'est un sujet tabou.
Quand on pose un peu la question à la famille, c'est un peu, je vais dire, un sujet un peu tabou parce que plus personne n'a envie de parler de ça. Quand c'était le passé, ça a été douloureux et donc ils n'ont surtout pas envie de réveiller cette époque-là.
Dans cette quête d'information, il a reçu l'aide de plusieurs chercheurs qui se sont plongés dans les archives françaises, australiennes et japonaises pour découvrir ce qui s'était vraiment passé. Dans le cas de Dominique, avant de commencer à se renseigner, il ne savait même pas que le départ de son arrière-grand-père de Calédonie n'avait absolument rien de volontaire.
Enfin, moi, pour ma part, je m'étais toujours dit, ben, c'est triste en fait qu'un père abandonne ses enfants et puis sa vie, quoi, comme ça. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas, quoi. Ils ont été arrachés à leur vie. Il faut mettre ça dans le bon contexte de l'époque, quoi.
Ce travail de mémoire, il vise aussi à réhabiliter une communauté balayée par la guerre. Mais avant d'en arriver là, il aura fallu attendre deux générations. C'est ce que rappelle Marie-Josée Michel, dont les deux grands-parents ont aussi été faits prisonniers en 1941.
Nos parents ont été des gens sacrifiés parce qu'ils ont perdu leur père au cours de cet épisode dramatique. Mais nos parents ont beaucoup souffert. Et nous, la génération qui venions après, on se devait de partager cette histoire, de la faire connaître, de la diffuser au plus grand nombre, parce que nos parents ne pouvaient pas en parler.
Sur cet épisode tragique de l'histoire, la France, contrairement à d'autres pays qui ont pris les mêmes mesures pendant la guerre, n'a elle jamais présenté d'excuses.
Il n'y a pas eu d'excuses officielles. Il y a eu une fois une manifestation où un élu, M. Pascal Vittori, en tant qu'élu, a publiquement regretté ce qui a été fait. Mais c'était une initiative politique propre à M. Vittori. C'est vrai que collectivement, contrairement à ce qui s'est passé aux États-Unis, par exemple, hein, il n'y a pas eu d'action formelle de regret pour cet acte, parce que aujourd'hui encore, plusieurs centaines de personnes, les descendants de ces Japonais, ont cette histoire douloureuse en mémoire.
À défaut d'un pardon officiel, les descendants de ces Japonais bannis de Nouvelle-Calédonie en savent désormais un peu plus sur ses ancêtres, sacrifiés à cause de leurs origines.
Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
De grâce. Et c'était Le Petit Jardin par Thomas et Jacques Dutronc. Et à présent, on va parler de l'eau, eh bien, parce qu'au début de la semaine, le 22 mars exactement, lundi 22 mars, c'était la Journée mondiale de l'eau. À cette occasion, je me suis entretenu avec Catherine Grouchka, conférencière à l'Université de Newcastle. Elle n'est pas aborigène, mais dans ses entretiens, on a été rejoint par le professeur émérite John Lester, qui lui est aborigène, et toujours de l'Université de Newcastle. Les deux universitaires ont dirigé un projet de recherche visant à sensibiliser le public à la conservation de l'eau, et ils ont écrit un livre, un code pour enfants. Where is our water? C'est un autre livre en anglais. Où est notre eau? Et en même temps, ce projet, c'était un effort pour faire revivre les langues aborigènes des peuples Awabakal et Worimai dans la région des Newcastle et Ohanta Valley. Le livre est donc sorti cette semaine, le 22 mars, Journée mondiale de l'eau.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Well, it was a project with Newcastle University, and originally it was negotiated with a colleague of mine who was an Aboriginal principal of that school. So it's a big school in Newcastle. And the project, obviously, the primary lead has been Catherine. Importantly, the project has highlighted the significance of Aboriginal people and their relationship to water, and in particular conservation, and from the viewpoint of young Indigenous youth from the school. And I think quite pleasingly, and as you'd be well aware, we existed in this environment for well over 65,000 years. So we were around when the last major climatic change took place in this country. So it's very befitting that an Aboriginal youth revitalised the need to conserve and look after water.
And how did this project come about? Because if we look at what we're going through today, ironically, we are talking at a time when Australia is going through, especially the mid-north coast of New South Wales, going all the way down south. Now it's reached parts of Victoria, even heavy rainfalls and flooding. One wouldn't say that there's a water shortage today on the 22nd of March 2021.
It appears a little ironic. However, this is a symptom of severe climate change, where we are going to be moving between long periods of drought and these extreme weather events. And we're actually having an extreme weather event. Our premier is calling it one in 100 years at the moment. But we were asked to do this project along with Hunter Water. Hunter Water is a state governance company who looks after and has responsibility for the conservation of water. They have been working with school children with the understanding that they're the future conservationists, and they have been trying very hard through quizzes and a STEM focus, STEM being science, technology, engineering and math, focus to teach students awareness of how we conserve water, how water is used, particularly in urban areas, and the consequences of water shortage, both in urban and rural areas. The project had some success, but I think they felt they needed a different approach. And the different approach was to take an arts-based approach and to take an approach which was grounded in a focus on reconciliation by the Hunter Water Management and their staff. It was perfect that you asked children to write a contemporary story that tells a narrative about conservation based in Aboriginal traditions. So that's really how it started.
And, last year when we had major events, it's the other way around, we had major fires. And one thing that came to the forefront, that discussion that was had everywhere, is why aren't we listening to traditional owners, Indigenous people, when it comes to water management, land management? This time it's water. It's just like it's a relay of one issue now to the other issue that comes up. John, can you tell us about this, just enlighten us also as well on traditional Indigenous knowledge in how to manage the water and look after land?
We've coexisted in this environment, and we have a philosophy of Mother Earth, and we don't own land and we don't have that possession. We live and care for Mother Earth. So it's not about ownership, and therefore it's not about abuse of resources. So we had, for over 65,000 years, nurtured and learnt to live with the environment. That changed over that 65,000 years. So we moved and changed with it. Water to us in certain parts of Australia was always extremely precious. And in terms of coastal locations that got perhaps a little more rainfall than the desert groups of people, it was more about looking after water and waterways so that they were clean and there remained an abundance of seafood and food available to Indigenous peoples. It was imperative to us to look after Mother Earth and both land, sky and water.
You worked with children. How aware are they? How engaged are they with this issue of water shortage?
I think all of them had conceptual frameworks around that principle about water care and water looked after, and they had some knowledge of we have a traditional story of Tiddalik the frog, and they were all very familiar with that traditional story, and that assisted them greatly in terms of understanding and conceptualizing the fact that Indigenous people in the past and their contemporary people living in a very contemporary urban environment had to transfer those learnings and knowledge into a contemporary sense, and in particular at a time when drought was ravaging the country.
Tiddalik is a Wanneroo story from the Upper Hunter Valley, and it's about a very greedy frog who drinks all the water and leaves no water for any other animals or birds. And the story is about how to make him laugh so that he would give the water back to the land.
Radio SBS en français, en ligne et sur votre smartphone.
Et à présent, un rappel des principaux titres de l'actualité de ce jeudi. Les vols internationaux vers Melbourne reprendront à partir du 8 avril. Et une allégation d'agression sexuelle contre un parlementaire de la Nouvelle-Galles du Sud. Et en France, 3 départements supplémentaires sur la liste des zones soumises à des restrictions sanitaires strictes. Et voilà, ceci nous amène à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Prochaine édition, samedi après-midi, entre 13 et 14 heures. Bon après-midi, à très bientôt. Et je vous laisse en compagnie de Ayo dans le morceau « Né quelque part ».
On choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Mani, le Paris ou d'Agé pour apprendre à marcher. Être né quelque part.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.